Je suis en compagnie d'Amélie Lucas-Gary pour parler de Hic, ce roman qui est paru en janvier 2020 dans l'excellente collection Fiction et compagnie aux éditions du Seuil. Nous parlerons également du précédent livre qui s'appelle Vierge, chez le même éditeur, la même collection, paru en 2017. Amélie Lucas-Gary, bonjour. Pour présenter Hic, nous commençons le roman, ou en tout cas cette fiction, le 5 août 2036, vers 17h. C'est ainsi que nous lisons dans l'ordre. Et nous avons affaire à Irène, qui est dans le pavillon de chez ses parents, à Ivry-sur-Seine. Assez rapidement, on découvre que Irène est votre fille.
Oui, c'est ma fille que je projette dans un avenir. Enfin, c'est un personnage qui emprunte le nom de ma fille. Le prénom de ma fille que je projette dans un avenir proche et assez peu sombre.
Et alors, pouvez-vous nous décrire ce qu'il y a autour de ce pavillon de chez ses parents ? Il y a un laboratoire notamment qui est proche.
Il y a le laboratoire, l'ancien laboratoire de Frédéric et Irène Joliot-Curie qui est donc voisin de mon domicile car le livre commence chez moi où je vis, donc à Ivry-sur-Seine, près de la Seine, à 200 mètres environ. Et de ma fenêtre, j'aperçois la grande façade comme ça, aveugle, de ce laboratoire que je n'ai jamais visité. Je crois que de temps en temps, il ouvre ses portes, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le visiter. Il est occupé par différents ateliers, des stocks de galeries, voilà. Je ne sais pas quelle est exactement la question. Tu voulais que je décrive les alentours. Alors les alentours, c'est un quartier en pleine mutation où beaucoup de choses ont changé. Il y a eu récemment des fouilles archéologiques avant de... Et c'est là que j'ai découvert le passé très ancien du quartier. Il y a eu des restes néolithiques et même certains du paléolithique, des sépultures. J'ai rien vu personnellement, mais il y a eu une exposition récemment à Vitry qui en parlait, et, enfin qui en exposait certains objets et des artefacts aussi. Voilà, c'est un petit. Je pense que c'est ce passé très ancien qui m'a projeté dans ce livre.
Parce que si nous commençons en année 2036, petit à petit, on va remonter vers le passé, déjà un passé proche. On va remonter en 1950, puisque ce livre est en fait en deux temps, une remontée du temps ou une descente du temps, ça dépend dans quel sens on veut le prendre, et une inversion après du temps, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à l'origine du monde, l'origine de l'univers, et après ça fait un aller de retour chronologique. Et à chaque fois, c'est avec un petit objet. Est-ce que, Amélie, tu peux décrire l'objet que va découvrir Irène et qui va faire remonter en 1950 ?
Oh, cet objet, il est très simple, il est un peu un prétexte. C'est un petit couteau rouillé qu'elle découvre dans la cave parce qu'elle entend, du bruit, elle découvre un chat et elle se baisse parce qu'elle voit briller quelque chose et elle trouve ce couteau. Oui, c'est un peu un prétexte pour passer d'une séquence à l'autre. J'aurais peut-être pu m'en passer, c'est une question que je me pose maintenant. Mais voilà, après l'idée c'était de construire le livre vraiment comme ça, comme des strates archéologiques, hein, c'est un peu évident. Et puis comme des instantanés, c'est aussi pour ça que c'est toujours des moments très courts que je décris, ça dépasse jamais une heure je pense à peu près. Donc c'est des moments très précis où il ne se passe pas forcément quelque chose de spectaculaire, disons.
Alors si, justement, il y a un moment spectaculaire et il y a la fin d'une attaque de Normands. Puisque de 1950, on va remonter à l'année 887, puisque le petit garçon de 1950 va découvrir une petite tige de bronze. Et avec cette astuce, avec cet objet, on remonte encore dans le passé. Et à cet endroit-là, tu imagines une attaque de Normands, ou plutôt des Normands qui s'enfuient, ou qui s'en vont, plutôt qu'ils s'en vont, après cette attaque. Est-ce que tu peux raconter un peu cette scène ? Là, il se passe quelque chose, un moment important aussi, historiquement.
Bien, je me suis inspirée d'un fait réel, c'est-à-dire le départ des Normands après l'un des multiples sacs de Paris. Et j'ai constaté en me documentant que l'un de ces sacs, le reflux des Normands, s'était fait en même temps que le reflux d'une crue, c'est-à-dire que l'attaque avait été faite en même temps qu'une crue de la Seine après des pluies diluviennes, pas forcément à cet endroit-là, mais plutôt plus en amont de la Seine. Et bah, tout le livre, et c'est pour ça que je précisais au départ que j'habite près de la Seine, c'est que tout le livre est quand même... Enfin, toute la première partie du livre qui se passe à Ivry est très... lié au flux et reflux de la scène, à son cours qui dérive, enfin qui change, c'est-à-dire qu'à certains moments, la scène coulait là où je vis. Donc ça, c'était un moteur d'inspiration énorme, enfin, qui a vraiment nourri mon imagination. Et puis j'ai un peu fureté dans l'histoire du lieu pour trouver des moments qui me paraissaient les plus beaux narrativement. Enfin, en tout cas, j'ai très vite eu des images comme ça de ces Normands qui regardaient, plutôt de ces Ivriens qui regardaient partir les Normands. Voilà. C'était pendant la nuit comme ça, ils y vont et puis ils tombent sur un corps, et un cochon qui dévore ce corps. Enfin, voilà, il y a une scène un peu. C'est vrai qu'elle est assez spectaculaire, ouais.
Et puis la scène d'après, plutôt le moment d'après, on est au Magdalénien et on va assister à une chasse aux cerfs. Là aussi, c'est assez spectaculaire. Et donc, cette remontée dans le plus lointain passé, au début, se fait sur ce lieu propre, c'est-à-dire le lieu d'habitation, le lieu où tu habites, le lieu où tu mets un petit peu dans le futur, 2036, ta fille, Irène. Et donc, on est dans quelque chose... Dans un récit, dans une histoire qui est très localisée, qui est localisée déjà en France, qui est localisée sur ce lieu particulier, et tu en fais une remontée dans le passé. Ayant lu Vierge, ton précédent livre en 2017, je découvre une cartographie française un peu imaginaire, et j'ai l'impression que ce qui tient ces deux livres, il y a une même manière, une même volonté, d'imaginer, de réimaginer à la fois historiquement mais géographiquement un lieu, et c'est pas pour rien que ça se passe précisément chaque fois en France.
Alors pour Rick, très clairement, et c'est aussi pour ça que j'ai intégré le personnage de ma fille, qui est donc un personnage fictif, hein, enfin voilà, c'est une question de racine et de parler vraiment de l'ici. C'est aussi un... C'est aussi assez politique, en fait, de parler de l'ici aujourd'hui, c'est de savoir d'où on parle. Et ça me semble très important de regarder l'endroit exact d'où l'on parle, d'où l'on écrit, d'où l'on regarde le monde. Et alors, c'est vrai que je n'avais pas du tout réfléchi à ça, que dans Vierge aussi, il y avait cet enracinement, parce qu'en plus, j'avais transformé la toponymie. C'est-à-dire que dans Vierge, ce voyage se fait entre Saint-Denis, dont je n'ai pas changé le nom, et Aigues-Mortes. C'est les deux seules villes dont j'ai gardé le nom réel. Et tout le reste, je me suis inspirée de villes qui existent, que j'ai transformées pour passer un petit peu dans la fable, dans le conte. Pour mettre une distance aussi, moi-même, pour arriver à parler différemment des choses et créer une épaisseur temporelle différente. Il est beaucoup question de cette épaisseur temporelle, je pense, dans les deux livres, différemment. Mais parler de la France, oui, je crois que c'est une façon de parler d'où l'on est. De le regarder précisément.
Puis, bien entendu, les temps plus anciens encore arrivent. Et c'est ça qui m'a captivé dans ton roman HIC, c'est cette remontée jusqu'au Big Bang et la manière dont c'est possible de faire récit avec des moments où il n'y a non seulement plus l'homme, mais où il n'y a non plus d'autres formes vivantes, c'est-à-dire comment raconter l'espace. Je trouvais que ton livre était connecté à l'espace, à l'univers et à cette tentative d'essayer de raconter, non pas en astrophysicienne, non pas en historienne, mais avec les moyens du récit, avec les moyens de la fiction, comment essayer de faire langue et de raconter ce moment de la formation de l'univers. Il y a ce beau passage sur la formation du système solaire où tu essaies d'avoir un vocabulaire qui n'est pas issu de la science astrophysique.
Je crois que tout l'enjeu pour moi, c'était, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais le titre c'est donc Hic, et c'est Hic, c'est ici en latin, parce que parfois on passe à côté. Tout l'enjeu, c'était de partir de cette toute petite chose qui est ici, l'endroit où on regarde, qui peut être 50 cm carrés à nos pieds, et d'en tirer le plus gros, le plus énorme, qui finalement est tout petit, puisque le Big Bang, ça a commencé avec le point le plus minuscule qui soit, qui n'est pas 50 cm carrés. Et voilà, et la langue, elle est venue assez naturellement, et le fait de pas... C'est vrai qu'au départ, j'ai eu une petite appréhension avant de commencer ces chapitres où il n'y a plus d'humains, mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Il y a toujours ce petit... Anne Serre appelle son petit narrateur, et je crois que chaque auteur a le sien, et mon petit narrateur s'accommode très bien de la présence non-humaine. Enfin, voilà, après, c'est vrai que je pense que j'ai lu beaucoup de, quand même, de littérature scientifique pour rester quand même à la fois crédible, pas tant pour le lecteur, mais que pour moi, pour y croire, parce qu'il faut que j'y croie moi-même avant de pouvoir régurgiter, mais c'est pas très joli. Mais enfin, j'ai lu beaucoup de littérature scientifique que j'ai intégrée puis oubliée, et ensuite tout ça est venu assez simplement. Voilà. Je crois que la langue qui en ressort est à la fois très classique, et en même temps elle a quelque chose de presque plus ancien que classique, quoi. Voilà.
Oui, je lui ai trouvé une forme très libre, et la langue est très claire. Enfin, il n'y a pas d'effet de style, il n'y a pas de recherche particulière d'un style excessivement compliqué pour lire ces moments-là. C'est ça qui m'a plu, le fait que cette langue soit limpide, claire, compréhensible, mais que par contre, le moment à raconter, lui, n'est pas si évident à raconter avec ces moyens-là, plutôt qu'avec une langue scientifique ou une langue philosophique. Et cette tentative, je l'ai trouvée particulièrement réussie, notamment dans cette seconde partie qui s'appelle « À la remontée ». Donc la première partie se termine avec zéro et bang, tout est ici. Puis arrive « À la remontée », donc c'est la remontée du temps. Voici le premier paragraphe que je vais lire. « Tout le monde est là qui n'existe pas. Les particules disparaissent trop vite pour apparaître. » Virtuelles, elles attendent leur tour à l'ombre du vide. Tout peut être ainsi et autrement, d'un côté ou de l'autre. Le vide s'immouvant, symétrique, s'impatiente. Il frissonne d'incertitude. Ici et ailleurs, la matière est une fiction. J'aimerais bien t'interroger sur cette phrase « la matière est une fiction ». Parce que c'est vraiment l'impression que ça m'a fait, tout ce corps du milieu du livre. La matière est véritablement mise en fiction, mais avec les moyens, avec les connaissances scientifiques, mais avec les moyens de la littérature.
Oui, bah cette deuxième partie, j'imaginais pas qu'elle serait, parce que là, elle est pas construite de la même façon. Elle est faite de petits paragraphes à la suite les uns des autres, sans rupture de ton, et puis le présent se mélange au passé. Enfin, voilà. Bah l'idée de départ, c'était vraiment que, bon, bah, à la remontée, bien sûr, ça veut dire repartir dans le sens chronologique, mais c'était aussi rompre la symétrie, ne pas m'ennuyer moi-même, comme je disais, il faut que j'y croie, mais il faut aussi que je m'amuse. Et donc c'était, hop, changer de rythme, et cette deuxième partie, je l'ai écrite en Nouvelle-Zélande, parce que j'étais en résidence là-bas. Et donc l'idée de départ, c'était vraiment, voilà, la première partie, je l'ai écrite chez moi, à Ivry-sur-Seine, et je remonte jusqu'au Big Bang. Dans l'avion, le voyage en avion, c'est le Big Bang, et puis ensuite, une fois que je suis en Nouvelle-Zélande, je repars dans l'autre sens, mais c'est plus compliqué que ça. Et puis, le jeu aussi intervient. Et voilà. Alors, la matière est une fiction. Je ne sais pas vraiment comment le commenter. Je trouve qu'il n'y a pas besoin vraiment d'explication, enfin, de sous-titres. Quand on est romancier ou romancière, tout est fiction. Enfin, je veux dire, je ne serais pas... C'est des phrases qui m'échappent un peu. C'est un peu de la poésie, cette deuxième partie, je crois. Et je ne saurais pas le dire autrement que comme ça. Voilà.
Parce qu'on n'a pas affaire à de la science-fiction, on n'a pas affaire à de la fiction avec de l'imagination. On a affaire à un travail sur de la matière. Tu expliques que ça se passe d'abord chez toi, puis en Nouvelle-Zélande, lieu où tu étais. Donc, il y a aussi ces deux lieux que tu connais, que tu as fréquentés. On pourrait presque dire que ça pourrait être un récit quasi autobiographique, et pourtant, ce ne l'est absolument pas. Il y a une grande part d'invention, de fiction, mais avec une part d'imagination qui serait faible, en fait, comme si tu avais réduit la part d'imagination, mais tout en étant de la fiction. C'est là où cette tentative, moi, me convient particulièrement. Alors, j'aimerais...
Je pense que l'imagination, elle est dans la mise en image. Enfin, c'est dans mes... Je crois que j'ai une façon d'écrire qui part des images, qui s'en nourrit, qui en invente d'autres, j'espère. Et je crois que cette histoire de matière est une fiction, c'est aussi quelque chose en lien avec mon rapport aux formes. C'est-à-dire que avant tout pour moi un roman ou la littérature, ce ne sont pas des idées, mais ce sont bien des formes, et sans que ce soit des tentatives formalistes, formelles ou expérimentales. Enfin, je veux dire, ça c'est... Je ne dis pas ça dans un sens avant-gardiste, mais bien dans un sens où ce sont les formes qui m'intéressent, qu'un roman doit être une forme comme on propose une sculpture, quoi, qu'il y a une peinture, voilà.
Et alors, qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-Zélande ? On a expliqué ce qui se passait quand tu étais à Paris, dans ta ville, mais en Nouvelle-Zélande, il se passe comme plusieurs types de chronologie, c'est beaucoup plus flou, c'est plus évanescent. C'est vraiment une autre manière de remonter le temps jusqu'à aujourd'hui. Et ce flou aussi, c'est un travail particulier. Il y a beaucoup moins d'histoire historique, mais par contre, on va y trouver un lien beaucoup plus fort avec l'environnement, notamment avec des oiseaux, avec ces moas. Est-ce que tu peux expliquer ce qui va se passer, ce qui se joue là ?
Ça a été un peu une surprise. C'est tout à fait lié aux caractéristiques de la Nouvelle-Zélande, qui est un pays qui n'a pas d'histoire, puisque les hommes sont arrivés très tard. A priori, les premiers hommes sont arrivés au 11e, 12e siècle, je crois, si je me souviens bien. Maintenant, c'est un peu oublié, mais enfin, c'est à peu près ça. Et avant ça, il n'y avait pas d'hommes. Donc avant ça, il n'y avait pas non plus de mammifères. Donc les oiseaux ont pris une importance considérable, et quand la deuxième... c'est-à-dire que les oiseaux ont été tellement libres de grandir sans prédateurs qu'ils sont devenus gigantesques, qu'il y en avait des milliers. Les premiers hommes qui sont arrivés les Européens qui sont arrivés au XVIIIe siècle racontent, parce que les premiers, ils nous racontent plus, enfin, on n'a pas de traces écrites de ce qu'ils ont vécu, racontent qu'à des kilomètres et des kilomètres des côtes, ils entendaient le cri des oiseaux, un brouhaha effarant, parce que c'était les rois de l'île. Et ça fait rêver. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que peu à peu, des mammifères ont été introduits. Les hommes ont, par exemple, chassé le moa pour le manger. Ils l'ont exterminé. Enfin, il y a eu beaucoup de disparitions. Mais enfin, ça reste le pays des oiseaux. Et avec des espèces endémiques qu'on ne connaît pas ailleurs. Enfin, voilà, c'est... Voilà pour les oiseaux et le début de la question. Le fait qu'il y ait moins d'événements historiques précis est intrinsèquement lié au pays. Donc ça a été une surprise, parce que je n'imaginais pas qu'il y avait un tel grand écart, enfin un tel écart en tout cas, entre l'histoire de notre pays et celle de la Nouvelle-Zélande. C'était d'autant plus intéressant.
D'autant plus intéressant que si je relis à Vierge, paru en 2017, il y a dans Vierge une géographie, une histoire française, et me dit que c'est vraiment aussi quelque chose qui t'a travaillé en Nouvelle-Zélande, en y allant, que tu ne peux pas t'empêcher, en étant dans un lieu, d'en dresser l'historique, mais à ta manière, avec une manière presque d'artiste d'art contemporain. Il va falloir aussi expliquer d'où tu viens, mais quelles sont tes pratiques, et dans tes pratiques, tu n'es pas du tout une romancière. Je ne t'imagine pas en étant romancière, tu viens plutôt de l'art plastique, tu viens plutôt d'une démarche d'art contemporain, donc avec plutôt des concepts qui sont mis en forme, ici qui sont plutôt mis en texte. Dans Vierge, tu recrées une géographie française, mais avec un art du conte, un art de la fable, un art de la fabulation, avec cette jeune fille qui, elle, est enceinte, mais elle est enceinte tout en étant vierge. Et c'est rejoué presque, j'avais l'impression d'avoir en arrière-fond Jeanne d'Arc qui serait enceinte. Bien entendu, Jeanne d'Arc n'a pas été enceinte, mais je m'étais imaginé que c'était rejouer, en tout cas une fable avec l'histoire de France et une géographie française réinventée aussi.
En tout cas, c'est vrai que je me suis rendu compte en Nouvelle-Zélande que quand je regardais un lieu, j'avais besoin d'imaginer ce qu'il pouvait y avoir eu avant et potentiellement ce qu'il peut y avoir après aussi, mais ça, on peut l'imaginer partout. Et c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, pour moi, ça a été assez frappant l'effet que m'a fait cette nature. Ça me la rendait hostile, en fait. J'avais le sentiment que oui, peut-être personne n'avait marché sur cette colline avant moi. Bon, alors j'exagère un peu, mais pas à Wellington, hein, mais il y a des endroits où on peut imaginer que personne ne l'a foulée. Et ça, c'est... on peut trouver ça très beau et ça peut faire rêver, mais ça peut être aussi assez inquiétant. Et voilà. Et c'est vrai que moi, je crois que je construis mon travail et peut-être ma langue, mais ça, c'est plus inconscient, sur comme ça des strates que j'assimile et que j'ai besoin de mêler. Je ne suis pas dans la rupture, en fait. Voilà, c'est en ça que ma langue est classique et que finalement, même si on s'étonne parfois de comment je construis mes histoires, en tout cas, c'est dans une lignée, quoi. Y a pas de, oui, c'est pas une écriture de rupture ou une littérature. Mais ça vient par contre beaucoup, en effet, de mon parcours. J'ai étudié la photographie, j'ai fait de la sculpture, je m'intéresse beaucoup à l'art contemporain et je me sens beaucoup plus proche de démarches, pas forcément conceptuelles, mais en tout cas de démarches plastiques, même si l'art conceptuel a compté aussi, mais que ça, je m'en éloigne peut-être un peu plus, mais je me sens plus proche de démarches d'artistes contemporains par mon attention à la forme, justement. Que à des démarches de romanciers qui peuvent parfois être presque des philosophes ou des essayistes ou des journalistes ou voilà. Moi, c'est vrai que c'est pas ça qui me, même si mon livre est documenté, hein, parce que j'ai déjà dit ça et on me dit mais quand même tu t'intéresses beaucoup, enfin tu vas sûrement sur Wikipédia, quoi. Évidemment, mais j'espère en tout cas y mettre une distance et en ressortir une forme qui n'a rien à voir avec ce que pourrait écrire un essayiste, par exemple. Et c'est voilà.
Et alors aussi, un des points communs, je trouve, entre ces deux livres, alors je n'ai pas lu Grotte, qui est le premier, je ne connais pas son contenu, mais dans Vierge, on découvre, plutôt vers la fin, que cette Vierge se nomme Amélie. Et de même dans Hic, votre dernier livre, c'est votre fille Irène. Alors on peut imaginer... Ah, c'est l'enfant de la Vierge, oui, exactement. Pardon, c'est pas la Vierge, non, la Vierge s'appelle Emmanuel. C'est l'enfant de la Vierge qui s'appelle Amélie. Et donc, on peut imaginer par ce lien qu'il y a aussi un travail autour de votre personne, votre famille, de là où vous habitez, les lieux que vous avez découverts, et qu'on est dans quelque chose, alors pas du tout d'autobiographique, ni de biographique, mais qu'il y a un jeu, en tout cas, avec ce que vous... d'où vous parlez, et vous parlez... à partir de vous. Ça peut donner cette impression-là, même si Vierge est très, très fabulée, très, très imaginée, bien entendu.
Oui, excepté mon prénom dans Vierge, il n'y a absolument rien d'autobiographique. Mais c'est vrai que Vierge se termine avec la naissance d'un personnage qui s'appelle Amélie et Hic commence avec un personnage qui porte le nom de ma fille. Mais ça, bon, le lecteur ne le sait pas forcément, mais enfin, on le comprend parce que sa mère est écrivain. Et je laisse des indices, c'est pas... Voilà. Mais oui, je pense que ça revient à cette question de parler d'ici et de moi. Alors, c'est en effet pas du tout autobiographique. Il y a quasiment pas d'informations liées à ma vie. Mais ça, je pense que ça répond à une quête métaphysique, enfin, ontologique, un jeu aussi, en effet, c'est un peu une façon de m'amuser avec, pas forcément, enfin, peut-être un petit peu avec le lecteur, mais surtout avec moi-même, et puis d'ancrer ouais, le récit dans... Je sais pas bien, en fait, je suis en train de réaliser, parce que là, je suis en train d'écrire le quatrième, et qu'il y est aussi un peu question de moi... à un moment, et dans Grotte je parle d'un personnage à un moment qui en fait est quelque chose de moi, mais c'est deux lignes, mais pourquoi est-ce que je fais ça, honnêtement j'ai besoin de mettre un tout petit de m'ancrer un petit peu là. C'est encore une question, je sais pas forcément. Après, dans Hic c'est beaucoup plus évident parce que je fais part de ma position d'auteur, donc mais j'étais en résidence aussi, alors c'est ma... J'étais sans cesse renvoyée à mon propre rôle, ma propre statut dans le pays. Enfin voilà, c'était. Mais c'est des livres très réflexifs en fait, donc forcément pas seulement parce que je m'y pose, mais aussi parce que ça parle beaucoup de ce que c'est que d'écrire de la fiction. En fait, la question récurrente, je crois, dans ces trois livres que moi je vois un peu comme une trilogie, serait de savoir. Alors j'y ai pas répondu, hein, mais c'est trois petites questions. Début de réponse, d'où viennent les formes, comment elles se génèrent, la grande question, quoi. Et la matière, donc, enfin, voilà. Je pense que quand je parle de la matière, je parle... c'est une façon de parler des formes.
Est-ce qu'on peut parler de ce que tu es en train de d'écrire ou de faire actuellement, cette relation notamment avec l'espace qu'on trouve dans HIC, quand tout le milieu se passe dans le... dans l'univers. Et j'essaie de chercher dans les fictions actuelles ces moments où on va s'intéresser à ce qui est ailleurs que sur Terre, c'est-à-dire à ce qui englobe la Terre. On parle beaucoup de notre environnement. Quand tu es en Nouvelle-Zélande, tu nous parles de cet environnement, des oiseaux. Mais il ne faut pas oublier que la Terre est elle-même aussi dans un environnement fait de planètes, d'exoplanètes, d'autres soleils, et que cette conscience-là, je trouve qu'elle apparaît bien dans HIC, et je crois que c'est aussi une partie de ton travail actuel.
Oui, alors je ne veux pas trop en parler, car je suis superstitieuse un peu, mais en tout cas, c'est sûr que c'est par le biais de Hic et puis d'autres rencontres et d'autres choses, mais que je me suis un peu plus projetée dans ces questions-là. Je ne suis pas certaine que finalement ce que je suis en train d'écrire va vraiment parler de l'espace. Mais en tout cas, je crois que l'espace y jouera un rôle de miroir un peu. On y verra des choses qui nous renverront à nous. Mais je peux... en tout cas, c'est la question ultime. Enfin, c'est le grand... comment dire, c'est un peu l'absolu de ce qu'on peut rêver, imaginer. C'est ce qui me semble le plus intéressant à rêver aujourd'hui, en tout cas. Après, je ne suis pas encore prête à le rêver vraiment et à l'écrire. Mais voilà. Mais c'est clairement Hic, par le biais de Hic, que j'ai en tout cas osé regarder un peu plus vers le ciel.
Merci beaucoup, Amélie Lucagari.